La semaine dernière, j'ai joint quelques pasteurs en Pologne et nous avons fait des petits allers-retours à la frontière avec l'Ukraine. On a apporté la nourriture, on a amené des réfugiés là où il fallait. Et il y a plein d'histoires et choses à partager. Mais une chose que j'ai remarquée, c'est que même si on était là pour transporter les gens, en réalité, hein, c'était ça mon rôle, j'avais l'impression d'être porté moi-même. Et c'était dingue. Vraiment, depuis le commencement, avec le premier Uber que j'avais à 4 heures du matin, jusqu'à mon arrivée, c'était fou comment j'ai eu des rencontres divinement organisées pour partager la parole et comment Dieu a pourvu même au-delà avec vos dons aussi, mais avec d'autres surprises. Ça a été quelque chose de vraiment fantastique à vivre. Et d'ailleurs, si j'ai l'air un petit peu... tête en l'air, c'est parce que aujourd'hui les mémoires, enfin ça revient, les images, c'était assez fort. Mais voilà, c'est que même si on était là pour transporter les gens, c'est vraiment comme on était portés nous-mêmes. Alors dans notre passage en Ésaïe chapitre 46, hein, Israël, dans leur rébellion, avaient oublié que c'est Dieu qui tient son peuple par la main. Et c'est Dieu qui conduit son peuple. Et que même la situation angoissante qu'ils connaissaient était de leur propre invention. Enfin, ils étaient là parce qu'ils ont fait des choses qui leur ont mené à cela. Et donc, ce que le prophète Ésaïe va nous dire aujourd'hui, c'est ça. C'est qu'il va nous parler des promesses de celui qui nous porte. Donc, les promesses de celui qui vous porte. D'abord, il va rappeler à ce peuple que c'est l'Éternel qui les porte. Ensuite, il leur dit ce que vaut réellement leur idolâtrie, afin de partager sa grâce. Donc voilà, donc la première chose, c'est la question, c'est qui porte qui? Eh bien, la réponse sans appel, c'est que, en fait, c'est l'Éternel qui les tient dans ses bras. Et pour cela, il faut que ces Israélites balayent toute leur illusion. Parce que ce que Dieu annonce, c'est la fin de la domination religieuse babylonienne sur son peuple. Et ça commence ainsi, verset 1. Bel s'agenouille, Nebo se courbe. On met leur simulacre, sur des animaux, sur des bêtes, vous les portez. Et les voilà chargés, devenus un fardeau pour l'animal fatigué. Ils se sont courbés. Ils se sont agenouillés et ils ne peuvent libérer le fardeau et ils s'en vont eux-mêmes en captivité. Bel et Nebo, qui sont-ils? C'est les deux dieux dominants de la société et culture babylonienne. En fait, tellement prévalents ces noms, en fait, c'est de Bel que les gens, ils nomment leurs petits-enfants des choses comme Belshazzar. Ou bien Nebo, ça donne Nebuchadnezzar. Donc, c'est comme ça que faisaient les Babyloniennes. Ils mettaient les noms et les prénoms après les dieux. Alors, Ésaïe, il reprend donc son... vraiment avec un ton moqueur. Et ce qu'il décrit... c'est des statues sans vie porter sur des animaux qui se fatiguent eux-mêmes à porter vraiment le poids de ce métal et de l'or et tout. Littéralement, en fait, le texte dit qu'ils ne peuvent pas libérer leur âme. On n'a pas ça en français, mais c'est les mots littéraux qu'ils usent, qu'ils ne peuvent pas sauver leur âme, libérer leur âme. Et justement, notez l'ironie de cette phrase, parce qu'il parle des objets en métal ou en pierre, qui sont incapables même de se sauver eux-mêmes, alors que les gens ils mettent toute leur foi dans les divinités qu'ils représentent. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire à son peuple? C'est qu'il annonce la fin de leur règne sur eux. C'est assez, c'est fini, on passe à autre chose. Les faux dieux sont arrivés à terme de leur règne. Et maintenant, l'Éternel va intervenir. C'est l'Éternel qui porte son peuple. Alors que les idoles, ils sont portés par les bêtes. Alors, si c'est la fin de la domination babylonienne, Yahweh s'occupe désormais de son peuple Israël. Verset 3. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, le reste de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès le sein maternel, que j'ai porté dès votre naissance jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre âge avancé, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore porter, soutenir, libérer. C'est l'Éternel qui s'occupe de son peuple. Il lui appartient. Il est le père pour ses enfants. Il était toujours, mais c'est eux qui se sont éloignés. Et même si c'est le paragraphe lui-même a un ton un peu ironique avec ces bêtes qui portent les idoles, Dieu est en train de consoler son peuple parce que c'est lui qui porte ses enfants entre ses bras. Dieu promet d'être là. Dieu promet d'être là d'une façon si tendre jusqu'à vraiment au sein maternel, jusqu'à leur vieillesse. C'est donc une promesse de leur survie. C'est aussi une promesse de leur prospérité le jour de leur retour. Leur avenir ne sera plus comme des esclaves de Bel et de Nebo. C'est fini ça. D'ailleurs, point intéressant, la religion babylonienne voit les choses ainsi. Les humains sont les esclaves des dieux. Ah, mais la théologie de Dieu, enfin, en Christ, même le judaïsme, c'est tout le contraire. C'est Dieu qui a créé l'homme et a créé l'homme à son image pour que l'homme cultive la terre, pour que, justement, il agisse dans ce monde à l'image de Dieu. C'est toute notre mentalité et c'est l'heure que son peuple revient à lui. En plus, il y a cette promesse d'être soutenu, même libéré. Pourquoi ? Parce que Yahweh s'en occupe. Donc c'est qui porte qui? Ah, soyons certains, c'est bien Dieu, le Père, qui porte ses enfants entre ses bras, un peu comme Johanna qui porte son enfant là derrière. C'est ça l'image. Et donc, maintenant, donc, en cas où Israël a oublié, il faut que Dieu leur montre et leur fait rappel de ce qui vaut vraiment leur idolâtrie. Parce que ces gens, ils ont mis toute leur vie dedans. Et il est nécessaire qu'ils reviennent et se rappellent. Et donc, il va argumenter de l'efficacité contre la futilité. Et nous reprenons en verset 5. « À qui me comparez-vous et me rendez-vous égal ? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables ?» Ils versent l'or de leur bourse et présentent l'argent à la balance. Ils paient un orfèvre pour qu'il en fasse un dieu. Et ils font des révérences et ils se prosternent. Ils le portent et ils le soutiennent avec l'épaule. Ils le déposent là où il restera. Il ne bouge pas de sa place. Mais si l'on crie vers lui, il ne répond pas. Il ne sauve pas de la détresse. Souvenez-vous de cela et soyez des hommes. Rebelles, prenez la chose à cœur. Ainsi parle le Seigneur. En revenant de des étapes de la fabrication des idoles, donc on prend le bout de bois et puis on fabrique et on met sur sa place et on l'attache pour qu'il ne bouge pas. Justement, il revient sur cela pour secouer les Israélites. Parce que ni ces idoles, ni les divinités qu'ils représentent n'en peuvent rien. C'est un appel à revenir vers Dieu. Parce que leur idolâtrie est rebelle. C'est une rébellion en réalité. Oui, ils étaient séduits. Oui, ils ont mis leur cœur vers quelque chose d'autre. Mais quelque part, Dieu, il voit la rébellion contre lui et contre son plan. Mais si seulement ils allaient réfléchir juste 2-3 secondes sur ce qu'ils font, il y a la possibilité de faire quelque chose. Il y a la possibilité qu'ils reviennent sur leurs erreurs et il y a cette possibilité qu'ils soient sauvés. Donc Dieu les appelle à réfléchir. Nous aussi, est-ce que nous ne n'oublions pas parfois qui nous sommes dans la mêlée de nos journées, dans les préoccupations de notre vie, dans nos distractions, est-ce qu'on n'est parfois pas ou ébloui par les problèmes, par des titres de l'actualité ou même le stress du moment dans notre travail qu'on oublie qui est notre véritable force? Mais aussi, en ce qui concerne la rébellion, parfois on est tout simplement autosuffisant. On suffit à nous-mêmes. Oui, on est sauvé. Oui, bien sûr, on a le Saint-Esprit en nous. Mais parfois, on agit comme des athées parce qu'on ne fait que ce qu'on doit faire sans penser à Dieu. Et là, c'est un danger. Alors que Dieu appelle son peuple à réfléchir sur leur vie, et à la lumière de sa présence et son histoire avec lui. En fait, ça revient à ce passage en Galates où Paul, il fait des reproches à l'Église. Et il dit ceci. Êtes-vous tellement insensés, après avoir commencé par l'esprit, allez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous fait tant d'expériences en vain? Si du moins c'est en vain, c'est lui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous. Le fait-il donc parce que vous pratiquez la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Ce que Paul reproche aux Galates, c'est qu'ils ont pris les choses en main. Et en tournant vers la loi, ils montrent ce qu'ils ont à faire. Ils montrent ce qui suffit à eux-mêmes, qu'ils ont les forces nécessaires pour accomplir la justice devant Dieu. Et ils mènent leur vie un peu comme un athée dans la pratique, sans vraiment penser à Dieu, en utilisant et en montrant qu'avec leurs bonnes œuvres et leurs bonnes actions, ils peuvent plaire à Dieu. Mais vous savez, ça, c'est tout ce qui est contraire à notre religion, à notre foi. Notre foi, ce n'est pas que nous étions si bons et si splendides que Dieu a dit, bah, « Tiens, je vais mourir pour ces gens-là. » Non, c'est parce que nous étions tous rebelles finalement, parce que nous étions sans force, tout le monde a péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est là, dans cet état, que Dieu, même la Bible dit en réalité avant la fondation du monde, hein, c'était le plan de Dieu d'envoyer son Fils unique dans la chair humaine pour racheter un peuple à lui qui sera saint et irréprochable. Ce que Israël a oublié à l'époque d'Ésaïe, il semble que l'église de Galate a oublié aussi il y a 2000 ans. Où en sommes-nous? Et qui porte qui? Est-ce que c'est nous qui fonçons? Et justement, maintenant qu'il a notre attention, c'est là où Dieu veut administrer sa grâce. Et verset 9, il commence. « Souvenez-vous des premiers événements, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et rien n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui vient par la suite, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mon projet tiendra bon. » Et j'exécuterai tout ce que je désire. J'appelle de l'Orient un oiseau de proie et d'une terre lointaine l'homme qui accomplira mes projets. Ce que j'ai dit, je le fais arriver. Ce que j'ai conçu, je l'exécute. Donc, le Dieu d'éternité qui ordonne l'histoire humaine selon son plan commence à le rappeler de la vraie état des choses pour qu'il puisse appliquer sa grâce. Le monde d'Ésaïe était sous l'hégémonie, si vous voulez, égyptien. Donc c'est Égypte, le grand puissance. Mais c'était en train de s'écrouler, là devant leurs yeux. L'Assyrie venait descendre et avec toute leur force méchante pour détruire des peuples et déporter les gens. Et tout cela allait finir par un autre royaume, Babylone, qui sera aussi très influent, très méchant. Mais une nouvelle puissance arrivait. Et il parle justement de cette oiseau de l'Orient qui va intervenir. C'est Cyrus le Grand. Nous avons vu ça la semaine dernière. C'est lui donc qui a permis aux Juifs de rebâtir leur temple. Un homme qui ne connaissait pas Dieu, mais Dieu, dans sa grâce, l'a appelé et l'a mis dans une place pour faire une œuvre particulière pour sa gloire. Il fallait que le peuple de Dieu s'en souvienne, se rappelle que c'est lui qui est derrière la scène internationale et que c'est lui que, malgré les difficultés qu'il voit, il est souverain. Et il sait que les royaumes vont monter, les royaumes vont tomber, mais c'est lui qui demeure Dieu pour toujours. Et c'est encore un exemple que, même dans le chaos des journaux de 20 heures, l'Éternel est toujours Dieu et c'est lui qui nous porte, même au travers des choses et des soulèvements des nations. Et là, c'est une promesse de sa grâce. Parce que ce n'est pas mérité. On ne peut pas mériter cette faveur de Dieu. Que malgré les problèmes que nous avons créés nous-mêmes, que Dieu, il est là, il est présent. Ça montre justement le fait que nous ne méritons rien. Mais Dieu, dans son immense bonté, il fait une promesse de grâce et dit ceci. Écoutez-moi, Jean, endurci de cœur, si éloigné de la justice, je fais approcher ma justice. Elle n'est pas loin, et mon salut ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion pour le peuple, pour Israël, ma parure. Vous avez vu? Peuple endurci qui est loin de ma justice, je fais approcher ma justice. Ce n'est pas que Dieu voulait qu'on fasse le premier pas et puis il revient. Non, de A à Z, c'est Dieu qui fait toujours le premier pas. C'est le Père qui a envoyé le Fils. C'est même à l'époque de la loi, Dieu a donné sa loi à Moïse. Ou bien, avant cela, c'était Dieu qui s'est manifesté à Abraham. Ou même, pour sauver, avant cela, à l'époque de Noé, c'est Dieu qui s'est manifesté à Noé pour le sauver. C'est toujours Dieu qui initie. Comme c'est Dieu qui est le Créateur. C'est Dieu qui est derrière de toutes choses. Et il parle de sa justice. Alors, en français, et bon, même en anglais, il y a parfois cette malcompréhension des choses. Ce n'est pas justice dans le sens qu'un juge ou un juriste. C'est plutôt cette qualité de sa sainteté qu'il a. Cette qualité qu'il est juste, sans faute, parfait et vraiment toute lumière sans ténèbres, justice. La même justice, d'ailleurs, qu'il accorde à tous ceux qui croient en lui. Vous savez, des grandes différences entre le protestantisme et le catholicisme. Bien sûr, nous ne croyons pas qu'il faut prier aux saints. Et pourquoi cela? Parce que Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés, il nous a purifiés de toute impureté, de tout péché. Et au moment où nous avons mis notre foi en lui, Dieu, il nous accorde sa justice, la justice de Jésus-Christ qui devient la nôtre. Ce n'est pas mérité, c'est tout le contraire. Nous n'avons rien mérité. Mais puisque maintenant que nous avons obtenu cette justice, cette sainteté qui appartient en réalité à Jésus-Christ, quelqu'un a parlé de ça un peu comme, pas comme un crédit, mais un don qui met dans le compte de quelqu'un d'autre. Du coup, ça nous appartient en Christ, ça nous couvre. Et ça fait que maintenant, nous sommes saints dans ce sens-là. Et ça, c'est pourquoi nous ne prions pas aux saints. C'est parce que nous avons été justifiés nous-mêmes et nous sommes devenus saints par le sang de Christ. Et donc, on n'a pas besoin de passer par un autre. Et quelle grâce et encouragement pour nous aujourd'hui. Surtout pour une génération comme la nôtre qui est assez endurcie. Notez bien comment notre nation a réagi vis-à-vis des événements. D'abord, il y avait le peur bleu de la Troisième Guerre mondiale. Bon, c'est toujours une possibilité, mais puis, en quelques jours, on a passé à ça, à toutes les plaintes contre la politique d'un tel ou un tel, les prix du gazole qui monte. Et, enfin, quelque part, on est endurci, on est vraiment fixé sur notre petite bulle, notre petit monde. Mais ce n'est pas juste nous, tout le monde est comme ça. Toutes les gens de toutes les nations sont comme ça. Nous faisons partie de la race humaine. Hein? C'est, nous sommes qui nous sommes. Et nous sommes tous pécheurs. Mais Christ qui nous a rachetés, il nous donne autre chose. Et nous avons beaucoup plus à cœur une meilleure vision du monde pour sortir de cela. Nous avons beaucoup plus en Jésus-Christ et son salut est venu en Sion, comme il est dit dans l'Écriture. Christ est venu, il a donné sa vie, donc Dieu était fidèle à 100% à toutes de ses paroles. Il nous a pardonné. Et tout cela pour que, c'est ça ce qui est merveilleux, les rebelles puissent recevoir la justice parfaite de Christ. C'est Dieu qui s'approche d'eux avec sa justice. Les promesses de celui qui porte son peuple entre ses bras, c'est le salut de leur âme, c'est la justice, c'est cette grâce. Et j'ajoute aussi ce que Jésus a dit en Jean 10, 28. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et personne ne les arrachera de ma main. Je leur donne la vie éternelle. Ils ne périront jamais. Et personne ne les arrachera de ma main. Voilà les promesses de celui qui vous porte. Et c'est pour cela que malgré les apparences, le lieu le plus sécurisé au monde, peut-être pas dans le realme ou la réalité physique, mais vraiment le lieu le plus sécurisé dans tout ce qui est créé, dans l'univers entier, c'est d'être porté par le Tout-Puissant, d'être entre ses bras. Et là, c'est la même chose que vous soyez ici, que vous soyez dans le métro, que vous soyez à votre lieu de travail, que vous soyez même face à des choses difficiles et atroces. Si l'Éternel vous porte, vous êtes dans le lieu le plus sécurisé dans tout l'univers. Donc en conclusion, nous avons parlé d'un passage, bien sûr, qui nous fait réfléchir sur comment ceux qui écoutaient Ésaïe pour la première fois, ils devaient avoir ce réflexe pour dire, ok, si c'est ainsi, c'est qui nous porte? Peut-être ces bêtes de somme se fatiguent à porter les poids des idoles. Mais nous sommes tenus dans les bras de notre Père. Contentons-nous, par contre, de porter nous-mêmes dans nos difficultés, de prendre les choses en main, d'aller en avant, alors que peut-être Dieu veut qu'on aille dans une autre direction. Prendre les choses en main, être le chef de notre propre vie, bien sûr, c'est une forme d'idolâtrie parce que c'est nous qui devenons notre propre Dieu. Et ça demande beaucoup plus d'efforts et de force que nous possédons nous-mêmes. C'est pour cela que Dieu veut nous porter et nous diriger dans ce monde. Ça ne veut pas dire une vie inactive et une vie qui ne fait pas quelque chose. C'est tout le contraire. Et justement, il y a beaucoup en Christ qui souffrent parce qu'ils ont cette mentalité de prendre les choses en main en refusant son aide. Parce que Dieu nous a sauvés par Jésus. Il nous a investis dans son esprit. Et donc, si vous êtes en Christ, c'est ça ce qui est important à se rappeler. Si vous êtes en Christ, il vous porte déjà. Mais quand nous prenons les choses en main, ce qui se passe, c'est que nous sommes en réalité en train de lutter contre lui. Il veut nous diriger dans un sens, mais nous luttons. Et le pire, c'est lorsque il dit, puisque tu le veux tant, voilà, allez-y. Mais c'est comme ça aussi que nous apprenons justement à lui faire confiance. Vous avez un Père dans le ciel. Ne l'oubliez jamais. Même si vous n'aviez pas eu peut-être un Père physique qui était à la hauteur, certains d'entre vous l'avaient et avaient un Père qui était très présent. Mais pour vous qui ne l'avez pas, n'oubliez jamais, vous n'êtes pas orphelin. Vous avez un Père dans les cieux qui est plus présent que vous ne l'imaginez. Et c'est lui qui nous porte, quoi qu'il arrive. Alors, je vous invite, peut-être aujourd'hui, de lâcher prise là où vous savez que c'est vous qui avez pris les choses en main et de revenir à lui. Prions. Seigneur, je confesse que combien de fois j'ai pris les choses en main, ma vie, j'avais une chose en tête et j'ai foncé en luttant contre toi. Et nous sommes tous dans ce même schéma. Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Et Seigneur, aide-nous à apprécier justement tout ce que nous avons en Christ. De savoir que notre vie ne nous appartient pas, que c'est toi qui nous portes. Et c'est toi qui nous as sauvés, qui nous as purifiés. C'est toi qui nous sanctifies. C'est toi qui nous donnes une nouvelle espérance pour cette vie. Une nouvelle manière d'être humain, une nouvelle manière de vivre et d'être une lumière et le sel. Remplis-nous à nouveau de ton esprit. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen.